Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine je t'accompagne dans les grandes questions qui peuvent te venir en tête dans ton chemin de freelance ou d'indépendant, peu importe la manière dont tu t'identifies. Et cette semaine, j'ai le plaisir de vous proposer un épisode un peu différent. C'est un épisode avec un freelance vraiment passionné, je ne pourrais pas utiliser d'autres mots, qui s'appelle Rémi Bailly. Alors Rémi, je l'ai rencontré lors de ce fameux voyage en freelance travel avec lequel je vous bassine depuis plusieurs épisodes parce que j'ai enregistré 3 épisodes de podcast en Corse pendant ce voyage. Et ce que j'ai adoré chez Rémi, c'est donc sa passion, ça se voit quand il parle de son métier, qui est du coup le référencement, le SEO et le SEA, qui pour certains ne veulent rien dire parce que vous ne connaissez pas, et pour d'autres vous dites « Oh mon Dieu, quelle chose compliquée !» Mais j'ai adoré à quel point Rémi était passionné, et ça m'a du coup donné l'idée de cet épisode. On change un petit peu, donc bien sûr il y a les questions rituelles auxquelles vous avez l'habitude, où je parle avec Rémi un peu de son parcours, des raisons pour lesquelles il s'est lancé, de comment il s'y est pris concrètement au départ, et vous verrez d'ailleurs que Rémi a une histoire assez intéressante de comment il a négocié un mi-temps avec son agence pour se lancer en freelance, et l'agence était d'accord pour le faire, donc ça peut en intéresser certains. Mais surtout, ce que vous trouvez dans cet épisode, c'est un cours particulier, spécialement dédié à vous, mes chers auditeurs, pour que vous puissiez enfin comprendre qu'est-ce que c'est le SEO, le SEA, le référencement sur Google, et comment vous pouvez vous en servir pour votre activité de freelance, votre activité d'indépendant, parce que c'est quelque chose qui est un sujet qui revient très souvent, et que finalement, on comprend assez peu, et c'est assez flou pour beaucoup de gens. Du coup, si ça te parle, si tu t'es déjà posé des questions sur c'est quoi le référencement, comment je peux faire pour mon site, etc., je t'invite vraiment à te plonger dans l'épisode, et je te dis à tout de suite de l'autre côté, et je te souhaite une merveilleuse écoute. Salut Rémi.
Salut Thomas.
Bienvenue sur le podcast.
Merci.
Pour le contexte, pour ceux qui regardent, c'est la 3e fois que vous voyez ce canapé. c'est parce que c'est la troisième personne avec qui je fais un épisode de podcast pendant cette merveilleuse semaine de freelance travel en Corse.
Exactement.
C'est le dernier matin aujourd'hui et on va partir. Ce qui est très triste. Mais je voulais profiter de ce moment pour faire un épisode un peu spécial avec toi, Rémi. On rentrera dans le concret après la première question, qui est donc comment et pourquoi tu es devenu freelance.
Très bien. Alors, pour expliquer moi un petit peu mon parcours, j'ai eu la chance de me lancer en freelance finalement assez tôt. J'étais toujours en études en deuxième année de master. C'était il y a quatre ans déjà. Et à l'époque, j'étais absolument pas dans l'idée d'en faire un métier à part entière après ces 4-5 années. C'était vraiment, je le voyais vraiment comme quelque chose complémentaire à un CDI, à un job en parallèle.
Donc en gros, tu te lances pendant tes études en disant je vais être free pendant un an là, et après je vais trouver un job et je vais continuer de faire ça à côté.
C'est ça. En gros, c'était vraiment histoire de arrondir un petit peu les fins de mois, exactement. Mais j'avais vraiment cette envie d'avoir quelque chose secure, safe dans mon job, et en me disant voilà, je veux quand même profiter parce que le web c'est une passion. Je veux quand même essayer de développer et d'avoir un petit peu ce côté libre à côté. Ouais. Mais en aucun cas, je me suis dit. Je veux vraiment faire ça tout le temps et me détacher de l'entreprise.
Okay,
donc du coup, j'ai quand même fait une alternance avec ça à côté. J'ai fini mes études avec ça. J'ai trouvé un CDI toujours avec mon activité de freelance. Ouais. Donc j'ai eu la chance de passer un petit peu des deux côtés, que ça soit chez l'annonceur ou en agence web.
Parce que du coup, quand tu trouves ce CDI, désolé de te couper, mais
pas de souci.
Quand tu trouves ce CDI, en gros, ils te recrutent en se disant « Ah tiens, il a déjà monté son propre business en indépendant, t'avais un portfolio, des projets, c'est ça ?»
Pas forcément, un petit peu, mais disons que mon premier CDI, j'avais un petit peu la casquette gestion de projet, référencement naturel, référencement payant, CM, rédaction web.
Ouais.
Je faisais un peu de market, je touchais vraiment à tout. Donc effectivement, il y avait un petit peu ça, mais je pense pas que ça ait forcément joué.
Okay.
Mais effectivement, oui, après moi, je me suis dit... j'ai vraiment envie de développer ce côté-là parce que du coup pour le coup après je suis parti en agence et là en agence c'est là où j'ai vraiment commencé à me faire mon petit réseau et que voilà je me suis vraiment dit il y a quelque chose à faire là-dedans.
Ouais.
en freelance j'y suis vraiment allé petit à petit, c'est-à-dire que j'ai pas sauté comme beaucoup le disent dans le vide en me disant allez du jour au lendemain je plaque tout, je quitte tout, je me lance en freelance. J'y suis vraiment allé petit à petit, ça a pris au final 2-3 bonnes années avec un 35 heures, je suis passé à mi-temps même à la fin de mon contrat. Donc j'ai vraiment eu cette chance là d'y aller progressivement et de pouvoir dire j'étais là au bon endroit au bon moment quoi.
Quand tu donc c'est en agence que tu avais ce mi-temps?
Donc c'était en agence à la fin, ouais.
Comment tu as réussi à négocier? Parce que je pense que c'est effectivement une question que beaucoup de gens se posent, qui sont aujourd'hui en entreprise et qui se disent « Ah tiens, j'ai envie de me lancer en free, j'aimerais bien aller vers ce genre de modèle », mais qui n'osent pas, comme tu dis, faire le grand saut, qui n'est pas vraiment un grand saut, qui est juste une évolution, et forcément tu as de la sécurité avec le chômage
tout ça. Mais tout à fait.
Comment toi tu négocies ce mi-temps? C'est quoi les arguments que tu portes?
Alors moi ce qu'il faut savoir c'est que du coup à l'époque quand je me lance, je travaille avec des toutes petites entreprises, je travaille avec des indépendants, donc les budgets disons qui me sont alloués pour travailler avec moi sont assez minimes.
En freelance,
okay. Ouais. Et du coup comparé au modèle agence qui facture 2-3 fois plus qu'un freelance qui débute, qui travaille avec des budgets qui sont forcément beaucoup plus élevés.
Sur la partie ads,
donc voilà,
que...
exactement. Donc à l'époque, disons que j'ai eu cette chance de me dire finalement c'est pas de la concurrence frontale parce que les budgets sont absolument pas similaires. Et nous on le voyait vraiment plutôt comme une cohésion en se disant si je pioche des bonnes idées du petit indépendant du coin, je pourrais le mettre en application dans l'agence, vice-versa, et on le voyait vraiment plus comme ça avec un modèle où on peut trouver des complémentarités entre chaque branche, mais c'est vrai que c'est pas présenté comme ça. On pourrait se dire c'est de la concurrence, aucun patron
du coup,
pourrait le.
Les critères entre guillemets, c'était aucune concurrence entre ton activité indépendante et l'activité que
exactement,
tu faisais chez eux.
Ouais.
Même de la complémentarité dans le sens où toi, ça allait te rendre d'une part beaucoup plus professionnel à gérer des projets tout seul
et tout ça,
ce que t'apportes aussi à l'agence.
Exactement.
Et vice versa, du coup, forcément, ton activité à l'agence apportait à la partie individuelle, mais ça fait pas partie de la négo, forcément, ça.
Non, tout à fait. Non, mais voilà, c'est exactement ça, et on peut même vraiment pousser le truc, même un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on était dans un modèle où on travaillait avec d'autres freelances qui avaient vraiment chaque compétence dans un domaine en particulier. Et puis dans le web, quand on bosse sur un projet, un CM, il a peut-être besoin d'un SEO, un SEA, il a peut-être besoin d'un dev, d'une rédactrice. Donc il y a vraiment un turnover de compétences où vraiment j'ai appris énormément sur les autres métiers parce que du coup je travaille. C'était quelque part comme un petit collectif de freelance où on a vraiment pu partager toutes nos compétences.
Puis j'imagine qu'un autre argument qui aurait pu être présent, c'est de dire si ça se passe très bien avec les clients que j'ai moi et qu'un jour les besoins me dépassent, hop, tu les ramènes à l'agence.
Voilà, exactement.
En mode apporteur d'affaires pour l'agence, c'est ça aussi son argument.
Exactement.
Du coup, pour des gens qui seraient en train de penser à ça, l'idée, ce serait de dire montrer en quoi c'est un avantage pour votre employeur.
Exactement.
Que vous passiez sur un autre format de 4/5e ou de 3/5e ou de même bien en mi-temps.
C'est ça. Et puis, effectivement, ne pas s'arrêter au fait que tout de suite voir la concurrence. Après, effectivement, quand on est dans le modèle agence, c'est sûr que ça peut être, je pense, plus compliqué à gérer. Mais chez l'annonceur et dans un domaine d'activité très, très, très précis d'une vente ou vente d'un bien ou d'une prestation de service, oui, ça peut vraiment, pour le coup, être complémentaire et être intéressant, c'est sûr.
Du coup, suite à ça, ça fait combien de temps que t'es freelance à plein temps depuis ces différents petits, genre c'était comme des petits pas pour te rapprocher
exactement,
de plus en plus.
Ouais. Alors ça, du coup, c'est depuis janvier 2018.
Okay.
Où, du coup, j'ai fait une rupture conventionnelle. Je me suis lancé à 100% là-dedans.
Okay.
Donc janvier 2018. Donc on est en septembre. Donc ça fait un peu plus d'un an et demi. Maintenant.
Et du coup, à cette époque-là. Tu dirais que c'est quoi le pourquoi de passer à 100%? Parce qu'effectivement, quand tu te dis, je suis à l'école, je me lance, c'est un truc à côté, c'est pour me sécuriser un peu. Quand tu prends la décision de dire, OK, maintenant c'est 100%, c'est parti. C'est quoi la raison qui te pousse à faire ça?
Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit quand même avant de prendre les choses en main. J'aime bien quand même planifier mes choses et je suis pas du genre à sauter dans le vide comme ça sans avoir anticipé, sans plan, effectivement. Donc, je l'ai quand même bien réfléchi avant. Je l'ai fait parce que je me suis senti légitime et je me suis senti prêt à le faire. Il y avait vraiment aucune crainte, aucune peur. Alors si forcément un petit peu, mais disons que je suis vraiment passé au-dessus très 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 rapidement.
Il y a toujours la petite peur irrationnelle qui arrive.
Exactement.
J'y vais, mais comment ça va se passer.
C'est sûr que le fait d'avoir déjà une base un petit peu pérenne, solide de clients pour m'assurer. Quand même une santé financière en me lançant directement, c'est évident et c'est sûr que ça y fait même beaucoup. Mais je me suis vraiment pas trop posé de questions. J'étais assez sur le coup optimiste et je me suis senti légitime en me disant je sais que je suis passionné par ça, je sais que je vais me donner les moyens d'y arriver. Il faut que j'essaye.
Okay.
Et puis on verra ce que ça donne quoi.
Et aujourd'hui dans ta vie de freelance, c'est quoi le truc que tu te dis putain? C'est dingue.
J'ai bien fait de faire ça.
Ouais. Ouais.
Je pense comme beaucoup, c'est l'équilibre que t'arrives à trouver entre ta vie perso, ta vie pro.
Ouais.
On l'a vu cette semaine, notamment ensemble, on se l'est souvent répété. Mais c'est avant tout ça. C'est arriver à vraiment. Alors moi, j'aime bien dire en gros. J'aime bien dire que finalement, il n'y a pas de journée type freelance. C'est-à-dire, pareil, on en parlait. Tu peux être amené à travailler un samedi matin, un dimanche soir et pas travailler mercredi, jeudi, vendredi.
Ouais.
C'est vraiment, tu travailles comme tu le souhaites. C'est selon tes envies, selon tes goûts, selon tes besoins.
Ouais.
Et c'est pour moi le parfait équilibre entre ta vie pro, ta vie perso.
Ouais.
Et arriver justement à lever un petit peu le pied quand t'en as besoin, à booster des contrats quand t'as envie de te faire un petit kiff ou quoi que ce soit.
Avec Florian, qui est dans l'épisode 16, qui est sorti, que j'ai sorti cette semaine, parce que du coup, cette semaine, j'ai relancé la saison 2. Il disait un truc intéressant, il disait « Je me suis souvent posé la question de « Est-ce que je vis pour travailler ou est-ce que je travaille pour vivre ?» qui est une question que beaucoup de personnes se posent. Et lui disait qu'il était arrivé à un stade en étant freelance où c'est « Je vis et je travaille ». Les deux sont intégrés ensemble.
C'est une symbiose.
Une symbiose, exactement. Et tu te poses juste la question de comment est-ce que je peux intégrer mon travail dans la vie que j'ai envie de vivre et comment est-ce que j'intègre la vie que j'ai envie de vivre dans ma façon de travailler.
Exactement.
Et les deux sont juste sur un plan d'équilibre, quoi.
Ouais. Alors ça, je le rejoins totalement. Et pour moi, aujourd'hui, un freelance qui veut réussir et qui doit se donner les moyens de réussir, c'est avant tout la passion. Si t'es pas passionné par ce que tu fais, on en parlait pareil tout à l'heure, moi, un freelance qui réussit et qui est épanoui, mais qui n'est pas passionné par son job, j'en connais pas, personnellement. Peut-être que ça existe. Mais effectivement, pour parler de cette complémentarité, effectivement, le fait de se dire, au final, ça revient presque même à dire que c'est pas du travail. Si on pousse vraiment le truc très loin, c'est une passion. C'est et moi, quand on me demande quelles sont tes passions dans la vie, ben, je réponds mon métier. J'ai pas honte de le dire et c'est vraiment quelque chose dont on peut être fier parce que voilà, c'est sûr que c'est.
Rémi m'a fait un petit bootcamp SEO l'autre jour et tu voyais la flamme dans ses yeux.
Voilà, exactement. Ben voilà, ben ça fait plaisir à entendre. Donc, mais on en rigole, mais c'est exactement ça. La passion, c'est ce qui vraiment doit te. C'est ton leitmotiv de tous les jours. Quand tu te lèves, pareil, je sais plus avec qui je disais le lundi matin quand on en parlait, c'est exactement ça. T'es content d'aller au boulot.
Le lundi matin, quand t'es passionné par ce que tu fais, ça n'existe pas le mauvais lundi matin.
Exactement.
C'est drôle parce que la newsletter que j'ai avec Marie de Surf en Freelance, je sais pas si tu la suis, mais elle s'appelle Comme un lundi. Et l'idée, c'est justement de changer ce truc, de dire, en fait, le lundi, quand t'es indépendant, que t'as un projet et que t'as vraiment envie de créer ce mode de vie et cette activité qui te parle, le lundi matin, c'est génial.
Ouais,
et du coup, c'est le boost de motivation de dire, OK, nouvelle semaine, nouveaux enjeux, nouveau challenge, c'est parti, je défonce tout.
Tout à fait. Faut arrêter le cliché du lundi matin.
Comment ça va?
C'est sûr.
Mais ça tombe bien que tu parles de à quel point t'es passionné de ton métier et de ton expertise. Parce que l'idée de cet épisode-là, c'est de faire un truc un peu différent. Et on va jouer à un jeu. On va imaginer que t'es un peu comme un docteur. On est sur la hotline du SEO. Et là, il y a tous les freelances qui nous écoutent, qui n'y comprennent rien. Mais qui aussi se demande comment est-ce que je peux être plus visible grâce au référencement, sur les moteurs de recherche, etc.
Ok.
Qu'est-ce que tu as envie de leur dire?
Alors, juste avant de répondre à ta question, je pense qu'on peut déjà un petit peu planter le décor de ce qu'est le référencement naturel, ce qu'est le référencement payant.
En étant très vulgarisant pour que les gens...
Bien sûr.
Facile à utiliser.
Bien sûr. Alors, si je reprends vraiment le B.A.B.A. et la base du moteur de recherche, donc Google, c'est une entreprise qui veut gagner de l'argent. Son business model aujourd'hui est tourné sur ce qu'on appelle Google Ads, donc la régie publicitaire de Google. Donc, si je tape un mot-clé... par exemple, là, on est en Corse, donc collectif de freelance Corse. Il y a peut-être 5 entreprises qui vont vouloir se positionner sur ce mot-clé. Je schématise rapidement. On met de l'argent, on crée un site web de qualité. Aujourd'hui, c'est 2 facteurs qui peuvent nous permettre de se positionner sur ce mot-clé-là.
Ouais.
Donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment le business model de Google. Il y a d'une part, finalement, le référencement payant.
Je tape un mot-clé, les trucs où il y a écrit annonce en haut, c'est ça?
Exactement. Ça, pour l'anecdote, il y a aujourd'hui beaucoup de monde encore qui ne savent pas que ça existe et qui ne font pas la différence entre ces résultats de publicité payants et non payants.
Et du coup, ça, ces annonces, c'est juste des gens qui ont dit « je mets 20 euros pour être dans les annonces de collectif freelance
par exemple,
ou de freelance directeur artistique Paris ».
Exactement. Donc ça, on peut être très souple là-dessus. On peut décider du budget, des mots-clés. On peut faire notre publicité que le samedi. On peut décider d'être présent que dans une rue, par exemple, qu'aux Champs-Élysées. Enfin, on peut vraiment faire énormément de choses. C'est de l'instantané, du moment qu'on paye. Ouais. Il n'y a pas de souci.
Donc, par exemple, si je sais que mes clients, ils sont tous, c'est tous des startups, ils sont tous dans le Sentier à Paris où je vise que les startups de chez Station F à Paris. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un incubateur. Je pourrais dire, je veux seulement que les gens dans la rue du Sentier, où il y a tous les incubateurs, School Lab, plein de startups, qui tapent freelance stratégie de marque, il tombe sur moi et que mon annonce, elle soit que visible à cet endroit.
Par exemple, exactement. Okay. Et on peut même aller plus loin en disant, je veux que ça soit que sur les portables, je veux que ça soit que sur les ordinateurs. Je veux mettre des enchères sur le téléphone et pas sur les, ordinateurs parce que, ma clientèle, elle est peut-être plus dans la rue, effectivement, freelance, tablette, l'aspect.
Ce qui est intéressant avec ça, et je veux que vous le reteniez aussi ceux qui nous écoutent, c'est, ça montre encore une fois à quel point c'est important de comprendre précisément pour qui vous voulez travailler. C'est-à-dire, si tu as une connaissance vraiment pointue de qui sont les personnes avec qui tu as envie de bosser, comment elles vivent, comment elles font des recherches, comment elles se comportent, ça te permet d'être mieux ciblé sur ce levier-là, mais tous les autres aussi.
Exactement.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils veulent lire, vous pouvez créer des articles, peu importe. On peut aller bien plus loin sur ce sujet, mais ça réappuie sur ça et
exactement.
Je suis content que ça le reprouve une nouvelle fois.
Tout à fait. Après, effectivement, c'est la base du marketing et du search marketing. Définir ta cible, établir des personas, sans rentrer dans toutes les étapes de stratégie de référencement ou référencement payant. Mais oui, c'est évident qu'il faut arriver à connaître ça.
Donc ça, c'est la partie payante.
Ça, c'est la partie payante, effectivement. D'un autre côté, la partie naturelle, donc référencement naturel, SEO, partie référencement payante SEA. Donc pour toute la partie référencement naturel SEO, là on est vraiment sur un autre modèle. Aujourd'hui, quand on veut référencer un site, une entreprise se lance sur le web, elle va créer un site. Google va indexer ton contenu de manière gratuite.
Donc indexer, ça veut dire
prendre ton site dans sa base de données, okay, tout simplement. Donc là, pareil, hein, si je schématise, on crée un collectif de freelance en Corse, on appelle ça freelance Corse collectif. On crée un site.com, voilà. On fait en sorte, je vais pas rentrer dans les détails techniques, de créer un site bien conçu. Google arrive sur notre site, il l'incorpore dans sa base de données et on a déjà fait la première étape d'indexation.
C'est-à-dire que c'est possible que quelqu'un qui tape tel mot-clé ou tel autre mot-clé nous trouve dans Google.
C'est ça, c'est ça. Alors, il y a plein d'autres choses à prendre en compte, mais la base, c'est vraiment ça.
Effectivement, si tu mets en place une merveilleuse stratégie SEO, mais que t'es pas dans la base de données, ça sert un peu à rien.
Effectivement. Et ça peut arriver parce qu'aujourd'hui, dans le référencement, on a souvent tendance à dire qu'il faut se référencer, mais le BABA, c'est l'indexation. C'est tant que votre site est pas indexé dans Google, on peut pas se référencer. Et on peut très bien être référencé et se faire désindexer. Et vice versa. Donc c'est vraiment deux étapes, indexation, référencement, qui est important de.
Du coup, l'indexation.
De bien cerner.
Les gens qui nous écoutent à chaque fois, je vous invite à aller creuser les sujets. J'imagine qu'il y a plein de contenus sur le web qui vous aideront. Mais indexation, pour être indexé, c'est quoi? C'est juste un site bien conçu. Si tu passes par un CMS bien connu, genre WordPress ou quelque chose comme ça, c'est automatique, non?
Alors, déjà, première chose, pour savoir si ton contenu, ton site est indexé, je crois que je te l'avais montré, il y a une commande toute bête qui existe, c'est de taper site, donc S-I-T-E, deux points, ton URL dans Google, et déjà, tu auras la réponse. Okay. Pour savoir déjà la première étape.
Donc, vous copiez-collez l'URL de votre site, vous le mettez site, deux points,
dans Google, et on lance la chose. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que Google, aujourd'hui, son intérêt, c'est de référencer et d'indexer, tous les sites du monde pour avoir la meilleure base de données, la base la plus complète, la plus qualitative, quantitative.
Donc, c'est dans leur intérêt, forcément.
Donc, c'est dans leur intérêt de tout faire.
Pour que tu sois là.
Pour que tu sois là et pour que tu sois présent. Donc, je vais pas dire que c'est donné et que c'est immédiat d'être indexé quand tu lances un site, parce qu'on a des cas de figure où c'est pas le cas. Maintenant, la base et le fonctionnement du moteur de recherche, c'est de parcourir les sites de lien en lien. C'est aujourd'hui ce qui est au cœur de l'algorithme, notamment avec la notion de PageRank dont on pourra parler un petit peu tout à l'heure. Mais aujourd'hui, Google, comment il s'est construit, c'est qu'il, pour indexer tous les sites du monde, il part d'un site A qui fait un lien vers un site B, qui fait un lien vers un site C, etc., etc., etc. Et il parcourt vraiment le web comme ça. Donc, une indexation aujourd'hui sur le web, au final, c'est très, très simple. Tu prends n'importe quel site qui est déjà indexé, tu fais un lien vers un nouveau site et tôt ou tard, Google va passer dessus.
Et il va le trouver.
Il va trouver ce nouveau site qu'il n'a pas dans sa base de données. Il va lire son code et il va se dire, tiens, c'est un nouveau site, je l'ai pas, hop.
Donc, par exemple, pour moi, à un niveau individuel, c'est, je peux créer une page Facebook et si je mets le lien vers mon site web sur une page Facebook, un jour ou l'autre, Google va le trouver.
Exactement. Okay. On peut le voir comme ça. Alors, ça, effectivement, c'est la façon, on va dire, la plus naturelle. Maintenant, il y a plein d'outils qui existent pour justement booster un petit peu ça. Ouais. Il y a notamment Google qui a son propre outil qui s'appelle la Search Console. Si tu es propriétaire d'un site, tu installes cette Search Console sur ton site et en gros, tu dis à Google, « Salut Google, j'ai un nouveau site, l'URL c'est ça. » J'envoie la requête.
Viens regarder.
Deux jours après, même enfin deux
Google
minutes après.
Dans ton salon.
Exactement. exactement.
Ok, top. Donc, ça c'est l'indexation. C'est quoi la seconde partie du coup?
Alors, la seconde partie qui est bien plus complexe, bien plus longue.
Le nerf de la guerre.
Donc là, on rentre vraiment dans la partie référencement. Aujourd'hui, le référencement. Alors, je vais pas dire que ça évolue constamment, mais on reste quand même sur quatre branches qui sont la technique, le contenu, les liens entrants, entre parenthèses, le netlinking et l'expérience utilisateur. Okay. Sans rentrer trop dans les détails sur les quatre points, la technique, au final, ça revient un peu à ce qu'on vient de dire. C'est faciliter l'indexation, faire en sorte que Google parcourt facilement ton site.
Très bien.
En gros, l'idée, c'est de faciliter la tâche pour Google.
Ouais.
C'est en gros, voilà, tu dis...
Et plus c'est facile pour lui, mieux t'es référencé.
Alors, plus c'est facile pour lui, mieux tu vas être indexé dans un premier temps. Tu lui facilites la tâche. Après, pour être mieux référencé, ça va plus passer justement sur la partie contenu et la partie netlinking. Aujourd'hui, la partie technique, Alors forcément, il y a des petites choses qui vont faire que tu seras bien référencé. Mais dans le référencement aujourd'hui, la partie technique, elle peut faire péter un site de désindexation.
Mais c'est pas non plus.
Et c'est vraiment pas au cœur de l'algorithme. Voilà. La partie contenu, tout simplement, c'est aider Google à comprendre de quoi parle ton site.
Ouais. Si, donc créer du contenu créer qui parle à ta cible avec des mots-clés que tu cibles, etc.
Exactement, comme tu le fais très bien toi sur les podcasts avec tes URL spécifiques où tu détailles vraiment avec du vrai contenu textuel ce dont on est en train de parler.
Pour ceux qui nous écoutent, je vous invite à aller écouter l'épisode avec Alexis, l'épisode 9, où on parle vraiment que de création de contenu du coup, et effectivement ça fait le lien avec ce que tu dis et les questions que je vais te poser après. Parce que c'est vrai que pour exister et continuer de développer ta visibilité sur le web, notamment quand tu écris des articles, et je te parlerai d'autres sujets après, mais ça passe vraiment beaucoup par l'écriture aujourd'hui.
Exactement. Aujourd'hui, le contenu, c'est vraiment essentiel parce que Google, aujourd'hui, il a besoin de comprendre, il a des outils, il développe plein de choses au niveau de son algorithme. Il y a même des brevets qui sont déposés, il y a plein de choses derrière, c'est vraiment quelque chose d'assez énorme. Et dans toutes les langues du monde, parce qu'il y a pas, enfin là on parle du français, mais c'est vraiment Google est présent
partout,
partout dans le monde. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur ce qu'on appelle la sémantique. Donc aujourd'hui, on a des outils dans le référencement qui te permettent d'optimiser ta sémantique, justement pour le moteur de recherche, parce que l'objectif c'est ça, tout en restant naturel pour l'humain.
Ouais.
On dit souvent, il faut écrire une des bonnes qualités web. On dit écrivez de manière naturelle pour l'humain, tout en pensant au moteur de recherche.
Ouais.
Et le tout en pensant au moteur de recherche,
il est quand même très
important.
Un autre bon exemple pour ceux qui nous écoutent pour aller voir des très bonnes pratiques de ça, c'est Danilo Duchesne. Je pense que t'es d'accord avec moi là-dessus.
Ouais.
Quand tu tapes, par exemple, j'ai pas fait l'expérience, mais on pourra le faire, consultant en Facebook Ads. J'imagine qu'il ressort en premier parce qu'il crée tellement de contenu sur des mots-clés cibles en se disant j'ai envie d'être présent quand les gens tapent ça dans Google, que forcément il remonte.
Effectivement, ouais.
Et est-ce que du coup, autre question, c'est plus tu crées de contenu, est-ce que le fait que Google voit que tu as plein de contenu de qualité sur différents mots-clés, ça contribue à faire ressortir encore plus certains mots-clés de base, alors que si tu avais un seul article, ça serait moins puissant?
Ouais, alors ça, dans le référencement, on appelle ça le fait de créer plusieurs contenus, de les lier entre eux. C'est une notion qui s'appelle le maillage interne.
Okay.
En gros, c'est-à-dire, t'as 100 pages sur ton site web. La façon dont tu vas les lier entre elles, il y a même une notion du cocon sémantique, en écriture, enfin, arborescence de site en silo. Enfin, voilà, on peut pousser le truc
bien,
très, très loin.
Détaillé.
Mais voilà, en fait, l'idée, c'est toujours la même chose. C'est aider Google à comprendre ton contenu et à lui faciliter ta tâche. Si Google arrive sur ta page d'accueil et qu'il a 100 pages qu'il peut visiter, qui parlent de cuisine, de piscine, de foot, de randonnée, enfin, tout ce que tu veux et que c'est pas bien classé, disons que tu lui facilites pas la tâche. Maintenant, si effectivement tu mailles bien tes pages entre elles, avec des silos que tu fais en sorte de lui, toujours la même chose, de lui faciliter la tâche.
Okay.
Ça peut t'aider. Donc, pour répondre à ta question, oui, mais il faut que ça soit bien fait.
OK. Est-ce que tu peux parler, du coup, donc là, on a fait technique, on a fait contenu, on reviendra sur contenu juste après. Il y en avait, le troisième, c'était le netlinking.
Exactement.
Je pense que c'en est un qui est important.
Alors, c'est le plus important, justement, on termine, on monte crescendo avec la technique et le contenu.
Parfait.
Là, le netlinking, c'est vraiment le plus important. Pareil, j'en parlais aussi un petit peu au début, c'est sur ce modèle-là que Google s'est construit, le moteur de recherche qui a été créé en 90. C'est vraiment son modèle, c'est-à-dire, je veux parcourir le web avec des liens. Donc je me balade de site en site avec des liens. Et aujourd'hui, les liens, donc il y a plusieurs termes. Ça peut être un lien entrant, un backlink en anglais, le netlinking. On utilise plusieurs termes. Mais aujourd'hui, tout ce qui touche à ça, donc avec la notion du PageRank. Pour l'anecdote, le PageRank, c'est le nom qui a été donné grâce au fondateur de Google, Larry Page, qui a donné finalement son nom à l'algorithme. C'est une notion qui a été créée dans les années en 1998, je crois. Et aujourd'hui, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est ce qu'il y a de plus puissant dans l'algorithme. Pour la simple et bonne raison que Google, aujourd'hui, il a besoin, entre guillemets, d'avoir des votes, des avis et des opinions, en fait, de tous les sites du monde qui communiquent entre eux.
En gros, c'est de dire, s'il y a beaucoup de liens qui viennent d'autres sites vers ton site,
c'est qu'il est populaire.
Voilà, il était positionné un peu comme quelqu'un de confiance.
Exactement.
À qui d'autres personnes se réfèrent.
Exactement. C'est un système de vote soi.
OK.
Une recommandation.
OK. Ah, c'est intéressant de le voir comme ça, c'est de dire si j'ai un lien sur un autre site qui renvoie vers le mien, c'est comme si, ben voilà, vote de confiance, allez-y, cette personne-là.
Voilà, c'est ça, exactement.
Comme une recommandation client,
ouais, tout à fait. Alors, présenté comme ça, ça peut paraître simple et on pourrait se dire c'est uniquement la quantité qui compte.
C'est bien
plus complexe que ça. Il y a énormément de choses à prendre en compte. Il faut faire attention à la qualité, à la quantité. D'où vient tes liens, si c'est sur du texte, si c'est sur une image, si le lien il est en haut de la page, en bas de la page, si un site fait 1000 liens vers le même site, si tu reçois 10 000 liens depuis 10 000 sites différents. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses à prendre en compte, c'est assez complexe.
Exemple tout con, je fais de la stratégie de marque, les liens qui viennent vers mon site, c'est depuis des sites porno.
Voilà.
Pour une raison obscure qu'on ne citera pas, on ne sait
pas. Par exemple.
C'est pas à mon avantage, quoi.
Alors, c'est pas à ton avantage.
Enfin,
maintenant, Google a quand même, dans un souci de qualité, finalement, pour son algorithme, sa base de données, Google utilise des pénalités. Donc ça, pareil, pour l'anecdote, les pénalités chez Google, c'est que des noms d'animaux. Donc, on a panda pour le contenu. On va avoir pigeon pour le référencement local, dont on pourra aussi parler un petit peu tout à l'heure.
Donc, je me suis pris un pigeon si j'ai un lien depuis un site porno.
Alors, non, justement, pour les liens, c'est pingouin.
Ah, pingouin.
C'est pingouin, voilà. Donc là, pareil, c'est une pénalité donc qui est sortie en 2012, en avril 2012, parce que justement, Google s'est dit, ça devient n'importe quoi sur mon moteur de recherche. Tout le monde fait des liens vers n'importe quoi. Enfin, c'est le bordel, hein, pardonnez-moi de l'expression. Et du coup, Google s'est dit, non, mais c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Ouais. Parce que là, ma base de données, ça devient n'importe quoi. Mon moteur de recherche, ça devient n'importe quoi. Je vais commencer à punir et je vais mettre en place un filtre pour les liens de mauvaise qualité.
Intéressant.
Donc, si tu veux, quelqu'un qui fait 100 000 liens vers un site.
Qui crée un faux site pour nourrir
un
autre site.
Voilà, par exemple, et le site, il a 3 jours. Google va se dire, attends, c'est quand même bizarre. Il y a quelque chose derrière ça.
Okay, intéressant.
Là où la pénalité agit, énormément, c'est sur ce qu'on appelle les encres. Donc, les encres d'un lien, c'est la partie cliquable sur un lien. Donc ça peut être visiter
si
le site.
Cliquer ici et que c'est là où
je clique. Cliquer ici, voilà. Sauf que ça, pour Google, c'est aussi un indicateur de référencement et de critères dans l'algorithme.
Okay.
Parce que ça, forcément, tu peux le personnaliser et tu peux faire le bourrin. Donc, si je reprends mon exemple de collectif Freelance Corse, si je décide de me positionner et de me référencer sur ce mot-clé, je pourrais très bien faire une campagne de liens en démarchant la presse, mes amis, les professionnels, mes fournisseurs, mes clients,
des blogs, des choses comme ça.
Voilà, et leur dire, à chaque fois que vous me faites un lien, l'encre, je veux que ça soit collectif, freelance Corse.
Okay.
Sauf que c'est pas naturel,
d'accord.
Parce que, c'est tout simplement pas naturel.
Donc, faut qu'il y ait une diversité,
de faire
quoi.
Comme ça, donc faut qu'il y ait une diversité. Justement, la pénalité Google Pingouin agit là-dessus en disant, les encres, quand c'est suroptimisé, entre guillemets, je pénalise.
Okay.
Et quand c'est sous-optimisé, t'es pas bien référencé. Voilà, c'est ça.
Okay, donc pour
répondre à ta question sur les liens porno, tout ce qui peut être un peu touchy et qui sort un peu du cadre de la qualité web, si je pourrais dire, dans l'algorithme. Aujourd'hui, le filtre Pingouin arrive justement à détecter en partie ces liens-là, tu ne reçois pas de pénalité. Tu ne reçois pas de pénalité parce que le filtre Google Pingouin arrive à se dire, ok, ça c'est un lien de mauvaise qualité, du coup je le considère pas dans l'algorithme.
Okay.
Là où par contre c'est compliqué, c'est quand Google n'arrive pas à détecter si c'est un lien de mauvaise qualité ou pas. Et on en parlait hier, où là t'as une autre notion qui rentre en jeu avec ce qu'on appelle le SEO, le négatif SEO, ça c'est notamment une technique.
Ouais, mais j'ai l'impression
c'est en
que
gros
là, on
jouer
partir,
un petit peu, voilà, on part pas, voilà.
Ouais, partons pas dans les méandres.
On part pas dans les méandres, mais ça existe.
Dans ce cas-là, je trouve il y a une base intéressante, et je pense, je vais te reposer une autre question derrière, c'est de dire, ok, si on est freelance, on a des freelances en face de nous, c'est nos clients, et nous on fait du SEO.
Ouais.
Et eux, ils vont du coup créer un site pour commencer à parler d'eux. Étape 1, ils indexent le site, on le trouve sur Google.
C'est ça.
Étape 2, c'est je réfléchis à où est-ce que j'ai envie d'être visible sur quel mot-clé. Je crée du contenu qui colle avec ces mots-clés-là.
Exactement.
Et là, j'essaye d'aller trouver des manières pour qu'il y ait de plus en plus de sites qui envoient avec des liens vers mon site.
Exactement, exactement. Dans l'ensemble, t'as bien résumé. Les étapes, de toute façon, dans toute stratégie de référencement, c'est ça. C'est on fait de la sémantique. Donc, on essaye d'observer les mots-clés qui sont intéressants. Donc ça, il y a plein d'outils qui le...
Donc, imaginons que je suis
Un freelance en Corse.
Un freelance en Corse.
Un freelance qui arrive en Corse.
Qui fait des réseaux sociaux. Il est community manager.
Par exemple. Donc, le mot-clé le plus important, ça pourrait être freelance community manager
Corse.
Corse. Donc, moi, si je suis comme ça, qu'est-ce que je fais? Que je veux faire du référencement naturel. J'utilise un outil. Donc, par exemple, ça peut être SEMrush, ça peut être...
Je mettrai une liste dans la description du podcast.
Voilà, on vous donnera tout ça. Enfin, voilà, il y a plein d'outils qui nous permettent de faire ça. J'essaie déjà un petit peu de prendre la température et de me dire, bah, déjà, ce mot-clé, moi, qui m'intéresse, est-ce qu'il est tapé dans le moteur de recherche?
Ouais.
Ça se trouve, c'est peut-être freelance CM Corse
et pas qui va être plus installé.
Voilà, par exemple. Ça peut peut-être être freelance Facebook Ads Corse, etc. Etc, etc. Ça, c'est vraiment le premier boulot. Ensuite, on va essayer de regarder un peu si on a des concurrents. Parce que forcément, on n'est pas tout seul sur le marché. On a ciblé nos mots-clés. On sait qu'on veut aller là, là et là. Maintenant, il faut savoir un petit peu avec qui on va se battre.
Ouais.
Donc, on va regarder un petit peu les sites web des autres freelances qui font du CM en Corse. On va regarder s'ils font du contenu. On va regarder s'ils ont des liens.
Ouais.
On va regarder si leur site est bien indexé, si tout ça est OK. Comme ça, déjà, on sait un petit peu, on peut déjà arriver à dégager des tendances et à se dire, si dans 6 mois, je veux être là, je sais que ça va être compliqué parce qu'un tel, il a un gros site, il fait beaucoup de contenu, il est bon, il a des liens. Donc,
par
ça va être dur pour moi.
Ceux qui veulent aller se frotter à Danilo Duchesne.
Voilà, par exemple, si tu veux.
Danilo, si tu les écoutes.
Pour reprendre cet exemple.
Bravo, tu es un gros poisson.
Une fois que ça s'est fait, donc partie sémantique concurrentielle, on s'attaque directement à notre site. Donc là, ça va être le contenu, la technique, la structure, comment on va créer un petit peu l'arborescence de notre site. Donc là, typiquement, la page qu'on voudrait référencer d'un freelance CM Corse, ça va être la page d'accueil.
Ouais.
La page d'accueil, c'est la page par nature la plus puissante de tous les sites, celle qui est censée recevoir le plus de liens.
Ouais.
Ça, pareil, on l'a pas dit, mais les liens se font vers des URL précises et pas des sites. C'est vraiment l'URL précise.
Ouais, tout à fait. Donc, par exemple,
vers un article.
Un de mes articles de podcast, par exemple, ça peut être ça. Quelqu'un qui référence en disant « checker cet épisode » et ils envoient vers là.
C'est ça, exactement. Donc là, voilà, on va se dire déjà, ma page d'accueil, c'est la plus puissante. Donc, je vais mettre du contenu sur ma page d'accueil.
Ouais.
Je vais faire comprendre à Google que c'est ma page d'accueil que je veux référencer sur Freelance Community Manager Corse.
Ouais.
Donc déjà, ça, c'est la première stratégie importante. Ça paraît vraiment tout bête ce que j'explique, mais nous, on le voit. Enfin, les référenceurs le voient très, très, très souvent. Sur plein de sites, il y a du contenu présent, il y a de la quantité, il y a de la qualité, mais c'est mal organisé.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en gros, on va créer 10 pages. On va mettre beaucoup de contenu sur ces 10 pages,
mais
au final, la page
bien.
D'accueil qu'on veut référencer et qui est 7 pages à référencer, elle va recevoir, peut-être 200, 300 mots de contenu, alors qu'on a 1500 mots sur le site. Et les référenceurs, ils ont ce rôle parfois ingrat de dire, oublie, tu me supprimes ces 4-5 pages, tu pioches le contenu, tu mets tout sur la page d'accueil parce que c'est ça qu'on veut booster.
Ok.
Et ça, voilà, ça arrive souvent, c'est du contenu, de la réorganisation, et il faut avoir un peu le spirit référencement Google moteur de recherche.
Du pour revenir dans notre exemple, ce freelance CM Corse, il a fait son site, sa page d'accueil, etc. C'est bien, ça y est, il y a du bon contenu, c'est plutôt bien organisé. La prochaine étape pour lui, ce serait peut-être d'aller écrire des articles sur d'autres blogs.
Par exemple.
Qui parlent de community management, qui parlent de,
dans l'optique de, on va voir si t'as bien suivi Tom.
D'avoir des liens.
Exactement,
qui
exactement.
Tout à fait. De dire, par exemple, parler de, imaginons ses clients à lui, c'est que des restaurants en Corse. De parler de la gastronomie corse.
Tout à fait.
Et mettre en avant ses clients ou ce genre de choses.
Exactement.
Et même peut-être avoir des liens sur les sites de ses clients pour dire, nos réseaux sociaux sont gérés par machin et d'avoir un lien qui revient vers
Exactement, exactement. Et ça, pareil, dans le référencement, si on prend du recul, en fait, le référencement, c'est très simple. Il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle la partie on-site.
Ouais.
Donc, toute la
sur
partie
site
sur
moi.
Ton site à toi, donc technique contenu, que tu peux travailler, que tu peux optimiser, mais qui présente aussi ses limites. Parce que, par exemple, je prends une entreprise qui n'a pas de blog. Une fois que ça s'est fait, l'entreprise, tu vas pas lui dire sans cesse rajouter du contenu, rajouter du contenu, rajouter du contenu.
Ouais.
À un moment donné, même pour l'expérience utilisateur, pour tout ce que tu veux, tu peux pas avoir des pages web sur une home page qui font 6000 mots.
Ouais.
T'as forcément tôt ou tard une limite. Alors, t'en as qui font les bourrins, mais voilà. La partie off-site, c'est ça exactement. Tout à fait. La partie off-site. Donc là où ça, finalement c'est tout l'environnement à l'extérieur de ton site.
Ouais.
Ça c'est un travail sans fin. C'est pour le coup, c'est illimité. Des liens, je sais plus combien il y a de sites web dans le monde, mais tu peux toujours trouver des idées.
Un exemple
pour
qui
avoir des liens.
Très bien, c'est les sites presse, les grands médias. Ils ont tellement de gens qui renvoient vers les médias en termes de sources, des gens qui écrivent des articles ou des choses comme ça, qui renvoient vers source tel article du Monde, que forcément, leur référencement, il explose.
Tout à fait, effectivement.
Parce que c'est une source d'information, en fait.
Et c'est une source d'information fiable et populaire pour Google.
Du coup, si tu pense, encore une fois, Danilo est un bon exemple. Désolé si je vous saoule avec Danilo, mais regardez, c'est un bon exemple. Danilo, son site et tout le contenu qu'il écrit, c'est une source d'information pour plein d'autres personnes qui, du coup, renvoient vers lui.
Exactement.
L'idée de ces podcasts aussi, c'est que ce soit des sources d'information pour que les gens en apprennent plus sur le freelancing, développent les questionnements sur l'activité, etc. Et que ce soit un lieu de destination pour que d'autres personnes qui vont écrire sur ces sujets-là disent, allez écouter ça, parce que c'est une bonne source d'information. Exactement. Et que j'ai le lien entrant.
Exactement, tout à fait. Pour compléter un petit peu ce que tu dis, vu qu'on parle des liens, il y a quand même une chose essentielle aussi à comprendre. Et pareil, on se met à la place de Google. Aujourd'hui, quand on fait des liens, Google, il a besoin de comprendre si vraiment tu recommandes un site, tu lui envoies ta popularité avec ce qu'on appelle dans le métier, dans le jargon, le jus de liens, c'est notamment ce qu'on en parlait aussi hier avec l'attribut follow et no follow.
Oui.
Ça, pareil, c'est vraiment, pour le coup, c'est hyper important de le comprendre. Tous les freelances qui ont des liens entrants, qui veulent booster ça, je vous invite à surveiller ça, à regarder si l'attribut des liens sur les sites sur lesquels vous bossez, qui avec qui vous avez vraiment votre réseau et vous avez réussi à construire une stratégie de lien.
Si vous avez écrit un article de blog invité sur le blog de, Crème de la Crème, un autre média, peu importe, checkez que le lien qu'on vous envoie, c'est bien un lien en follow.
Exactement.
Ce qu'on se disait hier, du coup, ce qui est important, je pense, pour les gens ici, c'est que par défaut, c'est un lien follow, c'est-à-dire qu'il vous envoie la popularité. Et c'est seulement si la personne déjà comprend un peu cet univers-là, rentre dans le code et dit, en fait, je veux pas envoyer la popularité.
Exactement.
Donc, c'est un lien neutre, en fait.
C'est
comme
ça,
s'il comptait
exactement,
pas.
Exactement. Donc, ça fait quand même de la pub pour l'entreprise. C'est quand même toujours intéressant de le prendre.
Mais ça marche
pas
pour Google.
D'un point de vue algorithmique pour la page rank, c'est comme une pub télé, c'est comme une campagne média, radio, ce que vous voulez.
Sur du pur Google, ça.
Sur du pur Google, une pub à la télé pour votre référencement, c'est zéro. C'est peanuts,
Est-ce qu'on peut, j'ai envie de faire un autre exercice. Là, on a pris un exemple d'un freelance community manager, etc., qui est de base quelqu'un qui va plutôt faire de la rédaction et qui sera à l'aise à écrire des articles. J'aimerais bien qu'on prenne un autre métier, parce que c'est un sujet de discussion qu'on avait eu avec Alexis, où justement, il y a des gens qui lui disent « Oui, mais Alexis, parce que lui, il fait du copywriting, création de contenu, etc.
Ouais. »
On lui dit « Oui, mais Alexis, toi, c'est ton job. C'est facile d'écrire des articles, de bosser sur ton référencement, et ainsi de suite. »
T'as peut-être un exemple, mais sinon, j'en ai un très bon aussi.
J'aimerais bien citer un exemple, et prenons un exemple de freelance pour que ça parle aux gens qui nous écoutent aussi, pour ceux qui se disent « Oui, mais moi, j'écris rien. Je suis peut-être photographe ou vidéaste. »
Voilà, c'est ce que j'allais dire. L'exemple classique, c'est le photographe. Aujourd'hui, dans le référencement, quand tu veux référencer un site d'un photographe, c'est très compliqué. Parce que le photographe, à part de la photo,
Il va pas forcément
pas
écrire
grand-chose.
Des articles.
C'est ça. Donc, sur sa homepage, tu vas avoir la balise titre, à la limite. Donc, photographe freelance Corse, tu vas avoir ces super photos. Tu vas peut-être avoir, deux, trois lignes de texte de présentation. Voilà, exactement. Mais par contre, si tu demandes, si tu regardes la plupart des sites des photographes aujourd'hui, le contenu textuel, il est très, 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 très faible. Donc, du coup, les référenceurs qui veulent agir là-dessus, ils vont travailler en très grande partie sur la partie des liens.
Okay.
Donc, l'objectif finalement d'un référenceur, ça va être de travailler avec la relation presse, avec des blogueurs, avec des influenceurs, avec un cercle de famille, d'amis, de professionnels, tout ce que tu veux, pour, entre guillemets, donner le maximum de potentiel au lien, parce que tu sais qu'en contenu, t'es limité.
Ouais, donc l'idée pour quelqu'un qui va pas forcément avoir le réflexe ni vouloir, parce qu'il y a des gens, c'est pas leur truc, ils veulent pas rédiger du contenu.
Ouais.
Pour eux, l'enjeu, c'est qu'il y a un maximum de personnes qui renvoient vers leur site.
Exactement.
Donc, par exemple, une stratégie pour un photographe qui voudrait pas écrire, ça pourrait être prendre du temps pour faire des photos pour des influenceurs, par exemple.
Par exemple.
Sur des blogs connus, sur un sujet qui parle à ce que tu fais, et que ces personnes-là mettent à chaque fois un lien vers ton site.
C'est
en
ça.
En mode photographie par Tom Duchemuc.
Par exemple.
Et que ça renvoie vers son site.
C'est ça, exactement.
Okay.
Des liens en do follow. J'insiste
en follow,
bien. Du coup, si on est dans cette
optique.
Et après,
du coup, j'imagine que les influenceurs slash blogueurs, blogueurs peut-être si, parce qu'ils sont obligés de travailler le SEO, mais les influenceurs qui ont un blog, pas forcément leur truc, ils sauront pas forcément aller dans ce niveau de détail.
Tout à fait.
Après, effectivement, c'est un truc à checker, et maintenant que vous savez que ça existe, checkez-le.
Voilà, exactement. Donc okay, ça, au passage, juste pour finir là-dessus, sur ce follow, no follow, c'est quand même, c'est vraiment super, super important. Il y a pas forcément besoin d'avoir des grandes compétences techniques, hein. Ouais. Pour ceux qui bidouillent un petit peu le code, c'est du HTML, hein. C'est vraiment un niveau webmaster peut le faire. Il suffit tout simplement d'aller cliquer sur le lien avec la souris clic droit, inspecter l'élément de votre navigateur. Un lien, c'est une balise A. Et regardez justement si vous voyez ce petit nofollow
devant.
Qui, voilà, A, rel, égale, guillemets, nofollow. Et ça vous permet déjà déjà de savoir.
Pour continuer dans cet exemple du photographe, imaginons du coup, ok, je me lance, j'ai mon site, je commence à créer du contenu, donc à faire des photos pour d'autres sites pour que j'ai des liens entrants, qui peut être une stratégie. Je pense qu'il y a une autre idée aussi qui peut être intéressante pour tout le monde, pas seulement photographe d'ailleurs, pour ceux qui créent du contenu aussi, de s'entourer de d'autres personnes qui sont du coup pas forcément concurrentes, on revient sur le sujet par rapport à l'agence, ouais. Mais complémentaires, pour se recommander les uns les autres via des sites ou créer du contenu sur l'un ou sur l'autre. Imaginons du coup je suis photographe, je travaille avec un styliste mode qui a un site aussi,
ouais.
Et ce styliste il pourrait écrire genre mettre une page sur son site avec les professionnels en qui j'ai le plus confiance et mettre un lien vers mon site par exemple.
Exactement.
Et ça, c'est un autre lien.
Effectivement, c'est très bien parce que je comptais en tu m'amènes vers la direction.
Parfait.
Dans laquelle je voulais aller justement par rapport à tout ça. Aujourd'hui en fait ce souci là tout le monde l'a eu,
ouais.
C'est à dire que le référencement, on sait que ça passe par les liens en grande partie. Donc, c'est le nerf de la guerre, hein, dans le référencement, obtenir des liens de bonne qualité.
Ouais.
Donc, il y a tout simplement des personnes qui se sont dit, OK, moi, j'ai potentiellement un réseau de 1000 sites. Mmh. Je connais des photographes,
je connais 1000 personnes qui ont un site.
1000 personnes qui ont un site dans des activités différentes. Pourquoi je les rassemblerai pas sur une plateforme ou quoi que ce soit? Et puis, chacun vient faire son marché. Donc, en gros, tu mets en place une base de données en disant le site, c'est ça. Son netlinking, la valeur de son netlinking potentiellement c'est ça et ça. Si tu veux un lien là-dessus, tu m'appelles, on échange, on négocie un lien, un tarif et puis je te fais un lien.
OK.
Et ça aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche énormément.
Donc il y a des gens qui créent
business là-dessus,
ouais.
Parce qu'il y a plein de plateformes de liens qui sont en train de se mettre en place. Parce que tôt ou tard le référenceur de toute façon, il va être comme j'expliquais tout à l'heure, il va être confronté à la limite du contenu,
ouais.
Qu'à une personne. Et vu que les liens, c'est infini, illimité, et que ça ne s'arrête jamais,
ouais. Je donne un exemple tout con, on continue sur le photographe, monter un annuaire de tous les photographes freelance en Corse. Et du coup, il va créer genre une page profil de tous ces photographes avec un lien vers leur site.
Par exemple.
Et lui, du coup, il va monétiser le fait d'aller voir des photographes et dire, si tu veux un lien entrant pour ton référencement, parce que c'est important... Ça te coûte 20 balles, 40 balles. On regardait sur un site hier que tu me montrais, c'était 30, 40 euros. C'est que tu coûtes 30 euros et tu as une page profil sur mon site où tu expliques ce que tu fais avec un lien vers ton site.
Exactement, c'est ça, hein? Exactement. Alors pareil, après, pour continuer un petit peu dans ce que tu dis, il y a vraiment de tous les prix. Ça ouais. Peut démarrer à 20, 30, 40, 50 balles.
Ça dépend de la qualité du site et tout ça.
Exactement.
Quoi.
Et ça monte à plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros parfois sur des sites médias français très, très, très populaires.
Ouais.
Là où vous pouvez obtenir des liens en follow, en no follow, sur une thématique très précise avec un article super bien rédigé, parce que voilà, je pense que tôt ou tard on est forcément confronté à une pénurie d'idées finalement pour
ouais.
Se dire là franchement j'ai fait le tour, à qui je peux faire des liens, j'ai contacté tout le monde, j'ai plus d'idées, je suis limité, mais mon référencement j'ai pas encore ce que je veux, du coup je me tourne vers cette partie là.
Ouais.
Au passage, ce que Google ne préconise pas et ne recommande pas, parce que finalement, on vient perturber son algorithme de vote. Parce qu'il y a un aspect financier et d'échange de business derrière. Et ça, Google, forcément, lutte.
Ouais. Donc ça, c'est
lutte
genre
contre ça.
Dernière étape, quoi. La première étape, c'est pas d'aller acheter des liens, quoi.
C'est ça, exactement.
Okay.
Et du coup, pareil, juste pour finir aussi là-dessus, parce que ça va un petit peu dans la continuité, notamment suite à ça, cet échange de liens, de business, etc., tout ce qu'il y a, Google a mis en place de nouveaux attributs. Donc ça a eu lieu, je crois, début septembre, la première quinzaine, j'ai plus la date précise, pour justement aider le moteur de recherche à comprendre si le lien qui est fait est un contenu généré par l'utilisateur ou si c'est une publicité.
D'accord.
Donc avec l'attribut follow, no follow, il a mis en place deux nouveaux attributs qui sont user generate content,
ouais.
Et sponsored. Okay. Sous-entendu,
sponsorisé, donc
Google
c'est payé,
dit aidez-moi à comprendre si le lien c'est de la pub
ou si c'est vraiment
ou si c'est vraiment un super contenu créé, sous-entendu, ben moi si c'est de la publicité, je sais qu'il y a une transaction financière derrière.
Donc peut-être que la moins.
Voilà, peut-être que la popularité que je vais envoyer
elle est moins
importante.
Merci pour tout ça Rémi, j'aimerais juste reboucler avec ce qu'on disait au début parce que c'est vraiment important. Pour vous qui nous écoutez, si vous vous dites ah tiens, c'est intéressant tout ça etc., j'aimerais bien le mettre en place. Je pense le filtre à se dire c'est est-ce que mes clients ou les gens que j'ai envie de cibler ont comme réflexe d'aller chercher des choses dans Google qui te correspondent?
Exactement.
Tu vois, si t'es photographe freelance en Corse, est-ce que les clients avec qui t'as envie de travailler, donc on va dire des marques de mode, genre des créateurs qui se lancent en Corse, qui veulent des photos en Corse, vont avoir le réflexe d'aller taper photographe freelance ou prendre des photos pour ma marque de mode, enfin peu importe ce qu'ils vont taper, mais est-ce que c'est un réflexe? Parce que je pense qu'il y a plein de métiers. En fonction de ton client, tu vois, par exemple, ici, il y a quelqu'un qui travaille que avec des agences de pub. Si c'est des agences de pub, genre des grandes agences parisiennes, elles vont pas aller taper dans Google directeur artistique freelance.
Tout à fait.
Elles vont faire appel au réseau.
Tout à fait.
Et du coup, le filtre que je vous invite à vous poser comme question pour ceux qui nous écoutent là, c'est de dire, est-ce que les gens avec qui j'ai envie de travailler vont utiliser Google, oui ou non?
C'est
si
ça.
Si c'est oui, top, vous avez un merveilleux cours qu'on vient
exactement,
de vous donner.
Exactement.
Et sinon, ne perdez pas forcément trop de temps avec ça. Même si, bien sûr, dans le meilleur des mondes, on fait tout et on est bon sur tout. Mais vraiment, je vous invite à vous poser la question. Si c'est pas important pour vos clients et qu'ils utilisent pas ça, vous prenez pas la tête, en fait.
C'est ça. Il y a des domaines d'activité où le référencement naturel, il y a pas la demande.
Ouais.
Et c'est pas forcément nécessaire de le prendre en compte.
Ouais.
Pour compléter, hein, ce que tu dis, effectivement, de toute façon, c'est la première stratégie à avoir, l'audit sémantique. C'est ouais. Connaître quelle est la recherche
sur ton métier,
sur tes mots-clés, etc. Et dites-vous bien que dans le web, on a la chance énorme d'avoir de la data, d'avoir des données qu'on peut vraiment
mesurer,
manier,
ouais.
Qu'on peut mesurer. Il y a énormément d'outils qui existent pour connaître les volumes de recherche, les coûts par clic, pour revenir un petit peu à Google Ads, pour avoir une idée de combien ça coûte, la concurrence potentielle d'un mot-clé ou de plusieurs mots-clés, ce que vous voulez. Et on arrive aujourd'hui à dégager des tendances et à définir des intérêts de mots-clés qui peuvent être plus importants ou pas suivant le type d'activité, quoi.
Top. On va revenir sur les petites questions rituelles qui reviennent à toi, du coup, plus que sur ton expertise qu'on a bien couvert ici. Et
yes.
J'ai hâte de savoir, les gens qui nous écoutent, si ça vous a plu, ce type d'épisode qui sort un peu de ce que je fais d'habitude. Mais pour revenir à toi, est-ce que tu peux nous partager ce que c'est ta plus grosse galère que tu as rencontrée dans ta vie de freelance depuis le départ?
Alors, je veux pas paraître trop sûr de moi en disant ça, mais des grosses galères, finalement, pour l'instant, je croise les doigts et je touche du bois, je pense pas en avoir vécu. C'est peut-être plus des craintes ou des peurs, okay. Même plutôt qu'une grosse galère. Inconsciemment, c'est toujours peut-être le sentiment d'insécurité qu'on peut avoir en étant freelance. Parce que moi, ma façon de travailler, c'est que j'ai aucun engagement avec qui que ce soit.
Ouais.
Je travaille vraiment avec la confiance et donc, disons que c'est plus cet aspect-là de me dire finalement, comme beaucoup peuvent le penser, le CDI, c'est safe, etc., etc.
Ouais.
Que ça serait plutôt ça. Après, j'ai pas forcément de galère, ni eu de galère.
Ouais, mais cette peur irrationnelle de dire,
peut-être me dire
non,
que.
Mais te dire, ah ouais, est-ce que c'est vraiment sécure sur le long terme?
Exactement. Okay. Et d'arriver à anticiper, l'avenir. Moi, je sais que je me prépare énormément sur les futurs métiers de demain en me disant, moi, mon métier, tôt ou tard, il va disparaître. C'est évident.
Le référencement,
ça existait pas il y a 20 ans ou très, très peu, même 15 ans.
Ça va forcément changer.
Ça va forcément changer dans 10, 15, 20 ans. Donc voilà, se préparer à ça et ne pas se reposer sur ses lauriers en étant toujours dans un mode de veille, de compétences.
Et du coup, si t'avais, face à toi, ton toi plus jeune, c'est son premier jour en freelance.
Ouais.
C'est quoi le conseil que tu donnerais à ce plus jeune Rémi?
Alors moi, c'est fixer des objectifs. Ça, c'est un truc sur lequel je suis vachement attaché. J'essaye toujours de me fixer des objectifs sur court, moyen, long terme. J'ai un peu de mal à le faire, mais au moins sur du court, moyen terme
et avancer
comme ça.
C'est quoi court, moyen et long terme du coup, en termes de date?
Moyen terme, c'est 1 an, 2 ans, et court terme, c'est les prochains mois. Donc c'est-à-dire toujours arriver à se dire. Dans 6 mois, j'aimerais être là, me fixer des objectifs alors ça peut être financier, j'aimerais atteindre tel chiffre d'affaires, j'aimerais démarcher 10 clients par mois, tous les 2 mois, ce que vous voulez, j'aimerais continuer à augmenter mes compétences,
Pareil dans le référencement, on a et même dans le web de manière générale, on a une abondance d'informations, que ça soit en ligne avec des workshops, des ateliers, des conférences, des livres. Enfin, la connaissance et la compétence, elle est présente partout.
Ouais.
Très souvent de manière gratuite, parce que le web, c'est quand même une ressource gratuite.
Bah, énormément de gens créent du contenu.
Exactement. Donc aujourd'hui, c'est voilà. Enfin, j'en reviens un peu à la passion. Si t'es passionné et que t'as envie de le faire. Mais continue vraiment sans cesse à t'améliorer, à approfondir tes compétences, à te fixer des objectifs qui sont pas forcément très élevés d'entrée de jeu, parce que l'objectif, c'est quand même de les atteindre pour prendre confiance en toi et de monter les paliers vraiment petit à petit en te disant, bon, je commence avec un petit objectif de me dire, je vais bosser avec 3 clients, je les ai atteints, je suis content, dans 6 mois, j'essaie de passer à 6, tu vois, en y allant petit à petit pour vraiment continuer à progresser.
Et du coup, les personnes qui nous écoutent, si elles se disent « Ok, oui, c'est vrai, j'ai jamais trop posé d'objectifs, etc., j'ai envie de le faire », c'est quoi la démarche que tu leur dirais, genre en 3 étapes, pour qu'elles puissent se poser et réfléchir à des objectifs ?
Bah, finalement, ça rejoint aussi un petit peu ce que je dis, c'est apprends à te connaître déjà toi-même en te disant ce que tu veux. Qu'est-ce que je veux vraiment? Okay. Est-ce que je suis passionné par mon métier?
Comment je peux le faire évoluer?
Voilà, c'est vraiment apprends à te connaître à toi déjà. Ouais. Sois égoïste quoi. C'est pense à toi vraiment ce que tu veux, ce que tu veux faire. Pense pas trop aux autres. Écris, enfin voilà, quitte même à écrire sur un papier, moi je veux faire ça. Donne-toi les moyens de le faire.
Il y a
plein de méthodes. Il y a vraiment, enfin, moi j'insiste vraiment là-dessus. Hein, l'abondance d'informations, c'est que ça soit sur les livres, sur les podcasts, les vidéos, les mots, il y a plein de choses. Et je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de freelances qui, même, enfin moi j'en parle, mais je le fais pas forcément toujours, mais qui n'ont pas cette connaissance-là ou cette envie de se dire bon allez, il faut vraiment que je me force à faire ça et à me lancer là-dedans parce que c'est hyper intéressant.
Et à consommer des choses pour apprendre, quoi. Ouais, toujours être dans cette posture d'apprenant.
Toujours.
Moi, ce que j'ai fait cette semaine, par exemple, parce que normalement, j'ai mes petits rituels du matin et normalement, je lis un bouquin le matin, mais là, j'avais pas mes bouquins. Donc, tous les matins, je me posais ici à côté de la piscine et je lisais un article. J'ai lu, par exemple, un petit article sur le blog de Seth Godin parce que j'adore Seth Godin. Ce que je fais pas d'habitude, je prends jamais le temps de lire des articles et là j'avais pas de bouquin, je me suis dit ok, bah tous les matins un article avant de me lancer dans ma journée.
Tout à fait.
Et à chaque fois c'est des petites connexions, des petits trucs en plus où tu te dis ah tiens, c'est intéressant, je pourrais l'explorer.
C'est sûr. Après tout ce qui touche au développement personnel, ça pareil, moi c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, je lis pas mal de bouquins là-dessus parce que finalement quand t'es freelance quelque part, attention à ce que je vais dire, mais tu travailles à la base t'es seul. C'est-à-dire que même si tu travailles avec des clients, t'as ce besoin-là de t'ouvrir un petit peu aux autres et de développer tes capacités justement à t'améliorer, à augmenter tes compétences, même enfin tes soft skills, que ça soit ton relationnel avec les gens, etc. Et je trouve que les bouquins qu'on trouve sur le développement personnel t'aident énormément là-dessus pour justement te dire ok, j'en suis là, j'ai besoin de progresser là-dessus. Faut que je me fixe un objectif d'aller parler à 10 personnes quand je vais faire ça. Voilà, c'est vraiment cette démarche-là de...
Je trouve, et c'est quelque chose qu'on dit beaucoup avec Marie de Surf, c'est l'entrepreneuriat et donc le freelancing aussi, c'est un des outils de développement personnel les plus puissants parce que tu découvres tellement de choses sur toi et aussi tu te prends des baffes quand ça marche pas.
Tout à fait.
C'est vraiment un chemin de découverte, en fait.
C'est ça, tout à fait.
Au-delà de l'aspect business et ainsi de suite, tu vas découvrir tellement de choses sur toi et tu vas être contraint de sortir de ta zone de confort.
C'est clair.
Et du coup, ça, je trouve ça merveilleux.
Et puis, oui, pour finir, c'est clair qu'il y a énormément de choses. Et puis aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec les collectifs de freelance, etc., on est vraiment en train de créer une communauté d'entraide, de partage. Et c'est sûr que ça peut rassurer tout le monde. Donc un freelance qui veut se lancer à son premier jour, j'ai envie de lui dire, va rejoindre un collectif de freelance.
Trouve des
gens. Force-toi à parler avec tout le monde, à vraiment à faire parler de toi, à aller vers les autres. Et
c'est top que
ça sera forcément positif tôt ou tard, quoi.
C'est top que tu commences à parler aux gens qui nous écoutent parce que la dernière question rituelle, c'est si t'avais une question à poser aux auditeurs du podcast pour qu'ils réfléchissent cette semaine à leur activité, ce serait quoi la question?
Alors, j'ai bien réfléchi. Moi, il y a un concept japonais que j'adore. Je sais pas si tu le connais, dis-moi. C'est l'ikigai.
L'ikigai.
Alors ça, moi, c'est quelque chose que j'adore. J'ai découvert ça grâce à Idriss Aberkan. Petite mention pour lui.
Idriss, si tu nous écoutes.
c'est quelque chose que je trouve vraiment génial. Donc dans le concept japonais, l'idée, voilà, c'est de se dire il faut avoir une raison d'être, une raison de vivre, il faut avoir un but et donner un sens à sa vie. Ouais. Et donc ce concept japonais repose sur 4 choses. Donc ce que j'aime faire, enfin ce qui m'intéresse dans la vie,
ouais, ce que t'aimes faire,
ce qui peut être intéressant pour la société, pour les entreprises, un truc bénéfique, ouais, pour
ce que t'as envie de contribuer au monde.
Exactement. Ce à quoi potentiellement t'es bon. Ouais. Donc l'idée, bah, c'est entre guillemets de pas faire de la merde. Hein,
là où, si là où t'as des compétences.
Là où t'as des compétences, voilà. Et la quatrième chose, c'est ce pourquoi tu peux être payé.
Ouais.
Et donc bah, l'objectif, en fait, moi ma question, c'est de se dire si tu prends ce schéma, donc tu fais des ronds, hein, finalement, avec les 4 notions qu'on vient d'évoquer, si t'arrives à rassembler ces 4 choses
en une chose,
bah, c'est que tu as trouvé ta raison d'être.
Exactement.
Et moi, bah, du coup, la question que j'ai envie de poser, c'est si vous regardez ces 4 choses. Où estimez-vous, enfin, où en êtes-vous actuellement? Quel est votre objectif à terme dans ce schéma-là? Et ça permet vraiment d'apporter une opinion en se disant, ben, moi, je sais qu'il va falloir que je progresse sur mes compétences là-dedans. Je contribue pas forcément à la société en faisant ça ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, le freelance passionné,
c'est
le point de rencontre pour moi, ouais, de ces 4 choses.
Du coup, la question, je vais me permettre de la reformuler pour les gens qui nous écoutent, c'est quelle est la croisée des chemins entre ce que tu aimes faire, ce pourquoi tu as envie de contribuer au monde, là où tu es bon, où tu as des compétences, et là où tu peux te faire rémunérer.
Où tu peux gagner de l'argent.
Où tu peux gagner de l'argent. Et quand tu croises ces 4 éléments, bah, tu as trouvé ton sweet spot, quoi.
Exactement.
Et mets de la valeur sur ça et pose-toi ces questions, parce que je pense qu'on se les pose pas du tout assez régulièrement.
Non.
Et on se questionne trop souvent sur un des 4 piliers et jamais les 4 ensemble. Et c'est pour ça que j'adore cet outil de l'Ikigai. Et le schéma est beau, en plus, ça me fait penser
très bien, ouais, tout à fait.
À un mandala. Donc c'est plutôt chouette.
Tout à fait.
Donc posez-vous avec ça et je mettrai justement dans la description un petit outil pour se questionner là-dessus, parce qu'on utilise aussi cet outil avec Marie.
D'accord.
Donc je vous mettrai un petit outil pour l'utiliser et merci pour cette question, je la trouve top. On l'a pas encore eu sur le podcast et c'est vrai que c'est très
ouais,
important.
Et même pour conseiller, ouais, le concept un petit peu plus loin, je crois même que dans les mythes japonais, etc., l'objectif, c'est de trouver ça plus tard dans sa vie. C'est-à-dire, ouais, que l'objectif, c'est pas de le trouver à 20 ans, 25 ans.
Mais de le
c'est vraiment d'avoir eu l'expérience de vie et te disant à 50, 60 ans, je l'ai trouvé parce que j'ai eu, ouais, l'expérience dans ma vie.
Je pense que ce que j'aime bien là-dedans, c'est de dire que, en fait, trouver ta place dans le monde, c'est pas une destination, c'est un chemin.
Exactement.
Et c'est un truc que tu construis tout au long, parce que tu vois, moi, on aime bien avec Marie, encore une fois, l'image de tu joues à chaud-froid. Tu sais, comme quand on était gamin, chaud par ici, froid par là.
Ouais.
Et ça, tu le découvres au fur et à mesure. Genre, ah tiens, je me rapproche un peu. Ah non, là, je m'en essuie les manières, je pars dans le sens.
Ouais, tout à fait.
Et c'est vraiment ce jeu-là, en fait. C'est
tout
un chemin de vie. Et tu seras jamais arrivé. Et n'importe quel être humain découvrira des nouvelles facettes de qui il est et de ces quatre piliers-là tout au long de sa vie jusqu'à sa mort.
C'est
et ça, je trouve ça beau aussi.
Quand et dans le modèle, ouais, du freelance, on s'y retrouve.
Ouais, c'est clair.
On s'y retrouve parfaitement.
Si les gens ont envie d'échanger avec toi, c'est où l'endroit qu'ils peuvent venir te parler, te poser des questions sur ce qu'on s'est dit, peut-être te faire bosser s'ils ont envie de mieux référencer leur site?
Principalement LinkedIn, où je suis assez actif, Twitter, okay. Twitter, LinkedIn.
Ok, donc Rémi Bailly, et je mettrai les liens dans la description.
Tout à fait.
Un énorme merci Rémi.
Ben, merci à toi.
À très vite sur le podcast pour ceux qui nous écoutent.
Merci beaucoup.
Bye.
Au revoir.
J'espère que l'épisode t'a plu et t'a apporté de la valeur. Je sais que c'est un format un peu différent, mais du coup, je suis aussi curieux de comment vous l'avez vécu en écoutant. Est-ce que vous avez bien aimé ce format, presque comme un cours particulier sur un sujet donné pour vous accompagner? Le SEO, c'est quelque chose qui, comme je le disais en début d'épisode, que peu de gens comprennent vraiment comment ça se passe, tout ce qui est derrière. Donc, si ça vous a plu, je veux bien vos retours et vos feedbacks. Donc, n'hésitez pas soit à m'écrire par mail à hello@thomasburbidge.com ou sur Instagram pour ceux qui suivent la page sur Instagram. Le lien que je ferai simplement pour conclure, c'est le lien avec l'épisode précédent, l'épisode 20, où j'étais en solo devant ce micro et vous parlais de marketing et de comment faire pour changer votre mindset et votre regard sur le marketing et comment aussi créer un marketing qui vous ressemble davantage. L'invitation que je vous fais, du coup, c'est même si cet épisode vous a inspiré, vous y avez vu plein de choses qui pourraient être très intéressantes pour vous, ne vous forcez pas, ni pour le SEO, ni pour n'importe quel autre format de marketing, ne vous forcez pas à mettre en place des stratégies marketing qui ne vous ressemblent pas. Parce que si vous vous forcez à mettre en place des choses qui vous ressemblent pas, vous les tiendrez pas sur le long terme et vous arriverez jamais à vraiment ancrer des systèmes de marketing, de communication qui soient vraiment à votre service et qui vous aident à avancer et à créer quelque chose qui vous inspire. Parce que, pour lier avec ce sujet du mindset sur le marketing, tant que vous ne verrez pas ça comme un jeu, comme quelque chose qui vous amuse et qui vous aide à vraiment prendre du plaisir à vous marketer et à travailler sur votre marketing, vous pourrez jamais avancer et créer des choses puissantes. Donc, si le SEO vous paraît inspirant, vous avez envie de jouer au référencement sur Google et monter dans les différents grades pour arriver à la première place sur tel ou tel mot-clé, ben jouez. Et amusez-vous bien. Et si le SEO vous parle pas, jouez à autre chose. Voilà. Sur ce, je te souhaite une merveilleuse semaine. Passe à l'action, passe à l'action, passe à l'action. Et je te dis à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.